Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Anne-Sophie Pierry, Louis Drion-Lecoeur, Anne-Toscane Viudès, Aliette Ovine et Cédric Fuentes, à la réalisation Rafik Zénine, prise de son Jean-Guy Lamège et Pierrick Monsigny.
Entendez-vous l'écho ? Arjuna Andrade.
Pour terminer la semaine et bien finir cette année, nous avons décidé de faire le point, nous arrêter et réfléchir à l'état de l'économie en 2018 avant de nous engouffrer en 2019. Alors que l'année s'achève sur un moment de contestation politique et sociale d'une rare ampleur, il semblait intéressant de s'interroger sur les raisons de la colère ainsi que sur les possibles réponses à y apporter. D'autant que les mesures annoncées par le gouvernement semblent bien faibles face à la colère nourrie par plus de 30 ans de politique néolibérale. C'est en tout cas la thèse défendue par nos invités aujourd'hui qui offrent chacun des pistes pour répondre aux urgences économiques, sociales et écologiques. Alors 2019, trop tard pour tout changer, c'est l'épineuse question qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Avec nous aujourd'hui pour évoquer la possibilité d'une autre voie, Pascal Lokiek, professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur avec Dominique Méda et Eric Heyer d'une autre voie est possible, publié chez Flammarion. Avec nous également Marie Toussaint, juriste en droit de l'environnement et présidente de Notre Affaire à tous, l'une des quatre ONG qui a assigné l'État en justice pour inaction face au changement climatique. Vous êtes également délégué Europe et Jeunesse chez Europe Écologie Les Verts. Et enfin avec nous, Gilles Raveau, maître de conférence en économie à Paris 8 Saint-Denis et auteur de l'ouvrage « Économie, on n'a pas tout essayé », publié au Seuil. Marie Toussaint, Gilles Raveau, Pascal Lokiek, bonjour.
Bonjour.
Le poids commun de vos deux ouvrages, Gilles Raveau et Pascal Lokiek, est de nous dire que la vérité est ailleurs, qu'une autre voie est possible, hors du modèle néolibéral mis en œuvre depuis plus de 30 ans en France. Mais avant de se pencher sur votre analyse et vos propositions, peut-être faudrait-il commencer par définir ce qu'est ce fameux modèle néolibéral. Je vous propose d'écouter le sociologue Christian Laval qui évoque l'analyse du philosophe Michel Foucault et du sociologue Pierre Bourdieu.
Pour Foucault, qui est philosophe, il a entamé en fait une grande histoire des formes de gouvernement. Et depuis longtemps. Et au fond, ce qui va l'intéresser dans le néolibéralisme, c'est que c'est un mode de gouvernement des individus qui est très original. Alors certes, il s'inscrit dans la longue trajectoire du libéralisme, mais c'est une forme très renouvelée du libéralisme qui consiste pour l'essentiel à gouverner les gens par la concurrence, par la mise en concurrence des gens sur des marchés et à transformer les gens en petits capitaux humains ou en petits entrepreneurs d'eux-mêmes. D'une certaine façon, le néolibéralisme, et ça sera la même chose pour Bourdieu, ce n'est pas une politique économique. C'est pas du tout dans le registre simple, trivial, comme on le fait aujourd'hui, de la politique économique opposée au keynésianisme qu'ils abordent les choses. Ce qui les intéresse, c'est un gouvernement. Et Bourdieu, pour lui, c'est un renouvellement profond des formes de domination. Et il l'aborde de façon évidemment plus sociologique, c'est-à-dire en se demandant qui porte ça, qui porte cette nouvelle forme de domination, comment se fait-il que les nouvelles élites se soient converties à cela, et puis il s'interroge aussi évidemment sur les conséquences du néolibéralisme sur la société. Pour lui, c'est une dévastation de la société. Mmh. C'est clair pour lui que la remise en cause des services publics, la mise en marché de la société, etc., aboutit à des conséquences extrêmement graves, et en particulier conduit à la poussée de la xénophobie, etc.
Gilles Raveau, au-delà d'une politique économique, le néolibéralisme serait donc un dispositif de pouvoir consistant à la mise en concurrence non seulement des entreprises, mais aussi des personnes elles-mêmes sur les marchés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
On peut dire beaucoup de choses sur le néolibéralisme. Une des façons dont je le présente à mes étudiants, c'est de dire que pour les néolibéraux, l'État est toujours le problème. Et le marché est toujours la solution. Ce qu'on vit maintenant aujourd'hui, c'est une période politique, sociale et intellectuelle où on voit, où on sait que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça a été en débat au sein des économistes depuis les années 80. Donc il y a eu un débat à un moment entre keynésiens, libéraux, etc. Et c'était pas possible de dire qui avait raison, qui avait tort, en dehors de principes politiques qu'on avait le droit de partager, mais qui étaient propres à chacun. Et ce que change absolument tout le dérèglement climatique, c'est que maintenant on sait que la solution à la question écologique ne peut pas venir du marché.
Pascal Loquet, que l'un des pouvoirs les plus redoutables de ce néolibéralisme serait donc d'avoir réussi à instaurer l'illusion selon laquelle il n'y aurait pas d'autre voie possible. Le fameux TINA, There is no alternative, que nous matraquait Margaret Thatcher en son temps, est toujours d'actualité aujourd'hui ?
Absolument. Aujourd'hui, on est dans l'idée que tout doit être gouverné par deux séries d'entités. D'abord, une entité abstraite qui est le marché. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Le marché, c'est une construction totalement abstraite. Et ensuite, par les grandes entreprises, qui ne sont pas des personnes humaines, mais des personnes morales. Et donc, tout l'aspect humain, tout l'aspect social est totalement effacé. Dans le Code du travail, il y a un très beau principe qui est l'adaptation du travail à l'homme. Aujourd'hui, on est dans une philosophie où l'homme est supposé s'adapter au travail. Donc la finalité de notre ouvrage, ça a été de dire il faut changer de cap. Le cap, ça ne doit pas être simplement la satisfaction des marchés, la satisfaction des grandes entreprises, les profits. Le cap, ça doit être de promouvoir l'humain, le social et l'écologique.
Vous reprenez aussi à votre compte dans cet ouvrage une idée développée par le philosophe Hans Jonas, celle d'une éthique de la responsabilité. Comment est-ce qu'elle peut s'appliquer à notre économie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ?
Alors sur la responsabilité, alors Gilles Ravot vient de parler des questions d'écologie et c'est très lié. On a eu tendance à aller sur ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, notamment sur le climat. On a dit on va faire confiance dans les entreprises, Total, etc., pour s'améliorer, pour sans être contraint par une règle de droit, pour respecter la nature. Et donc ça, c'est une responsabilité, on va dire, ajuridique, non juridique. Il faut changer de terrain et aller sur une responsabilité juridique. Ça veut dire deux choses. Chercher des responsables. Donc, ça veut dire chercher des responsables. C'est un, les grandes entreprises. Hein, on a des études qui montrent que 100 entreprises, qui généralement sont sur les énergies fossiles, sont responsables de plus de 70% du CO2. Hein, donc il y a un, rendre juridiquement responsables les grandes entreprises des dégâts qu'elles causent. Ça, il y a tout un tas de solutions dont on pourra parler. Et puis, deuxièmement, rendre l'État responsable. Et effectivement, l'action en justice qui est envisagée aujourd'hui par la pétition des Gilets Verts, c'est quelque chose qui me semble tout à fait intéressant, parce qu'il n'y a pas que les grandes entreprises qui sont responsables, il y a aussi l'État qui a une responsabilité. Et je crois qu'effectivement, il faut passer de cette idée que spontanément les entreprises vont aller sur l'écologie, sur le respect de la nature, sur le social. Il faut passer à ce que nous on appelle en droit le droit dur. Si vous voulez. Jusqu'à présent, on était sur ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire du droit mou. On va sur le volontarisme, on attend que ça évolue. Là, il faut passer au droit dur. Et le droit dur, c'est de la responsabilité juridique.
Marie Toussaint, c'est aussi le fondement de votre combat, c'est de dire que on ne peut plus se satisfaire d'une responsabilité volontaire de la part des entreprises et de l'État. Nous y reviendrons un petit peu plus tard dans l'émission. Mais c'est cette idée selon laquelle, aujourd'hui, la véritable responsabilité doit s'appuyer sur du droit et sur des obligations.
Oui, ce qui est intéressant et à la fois ravageur dans le néolibéralisme, c'est effectivement qu'on a eu des actions, des activités économiques qui visaient le profit et qui ont détruit notre planète et qui finalement coûtent à chacun avec une petite poignée de riches qui finalement pourront s'en sortir parce qu'ils se construisent soit des îles artificielles dans la mer du Nord ou au large de Lagos au Nigeria par exemple, soit même visent à aller coloniser l'espace et ouvrir de nouveaux lieux d'habitation comme les multimilliardaires que sont Jeff Bezos et Elon Musk. Et en fait, on a observé à travers l'histoire de nombreux écocides, ces crimes très graves contre l'environnement qui ont été commis à la fois par des États, je pense à l'armée américaine au Vietnam pendant la guerre du Vietnam avec l'agent Orange, par des entreprises, déjà Monsanto qui était à l'origine de l'agent Orange, ou encore Bhopal en Inde, de nombreuses marées noires. Et en fait, le néolibéralisme n'arrive pas à contrer ces graves crimes contre l'environnement qui nuisent à notre survie, à la planète, mais aussi à notre économie.
Est-ce parce que le néolibéralisme ou le capitalisme néolibéral est intrinsèquement contradictoire avec l'idée de limite de la planète, puisqu'il faut toujours plus de profits pour le nourrir ?
Exactement, et le crime d'écocide vise justement à punir toutes les actions qui dépasseraient les limites de la planète, qui ont été définies par des équipes de chercheurs dans les années 2000 et qui sont aujourd'hui intégrées à de très nombreux systèmes de représentation, de calcul, intégrés à l'ONU, repris par le Trésor français d'ailleurs sur leur site internet. Et donc on pourrait dire il faudrait arrêter toutes ces actions, mais pour ça il faut quoi ? Et donc là je rejoins Monsieur Ravot et Monsieur Loquec, il faut quoi ? Il faut qu'il y ait des pouvoirs publics qui soit présent pour restreindre, pour placer des limites aux activités des entreprises. Et on voit bien que l'économie en elle-même, que ce néolibéralisme complètement libéral, ne parvient pas à se fixer lui-même les limites nécessaires.
Parce qu'on peut dire que vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Avant cette affaire du siècle, vous, avec notre affaire à tous, vous aviez milité justement pour faire reconnaître l'écocide dans le droit international. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette initiative que vous aviez portée ?
Donc on voulait inscrire effectivement l'écocide, en fait il faut l'inscrire à tous les niveaux, hein. On va bientôt se lancer dans une campagne en France, on a porté aussi une initiative citoyenne européenne en 2012, et puis on continue notre plaidoyer sur les chefs d'État pour que un amendement soit apporté au statut de la Cour pénale internationale et qu'effectivement à travers la planète, le juge puisse se saisir du droit, quel que soit le lieu où était commis le crime et quelle que soit la juridiction à laquelle on s'adresse pour pouvoir pénaliser ces écocides, avec non seulement la volonté de les pénaliser, mais la volonté de les prévenir d'abord. Et ce qui changerait aussi le droit international, puisque on pourrait désormais saisir le droit contre des entreprises, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Pascal Lokiek, dans cette idée du « there is no alternative » dont on parlait à un instant, le fait qu'il n'y avait pas d'autre voie possible, cela porte en creux aussi l'idée selon laquelle le modèle français, par une forme peut-être presque de trop de bienveillance, trop de care pour ses citoyens, serait allé trop loin. Vous, au contraire, vous défendez l'idée selon laquelle il n'y a pas de problème avec notre modèle social et ni de problème avec notre code du travail qui serait peut-être un bouc émissaire un peu facile aujourd'hui.
Voilà, alors c'est exactement ça. Alors, nous ne disons pas que le code du travail est parfait. Nous ne disons pas que le code du travail est accessible à tout le monde. Nous disons simplement que, en s'attaquant au code du travail, on a fixé un bouc émissaire. Personne n'a jamais pu établir la responsabilité du code du travail dans la situation de l'emploi. Je vais prendre un exemple. On a fait, comme vous le savez, et les avocats sont en train de s'en saisir devant les différents conseils de prud'hommes, on a fait le plafonnement des indemnités de licenciement. D'où ça vient? Ça vient en partie de l'Italie, du Jobs Act en Italie. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, suite à la mise en place du Jobs Act en Italie, le chômage en Italie a baissé sensiblement. Or, il se trouve que, parallèlement à la mise en place du plafonnement des indemnités de licenciement en Italie, on a fait d'énormes charges, d'exonérations de charges patronales. Il se trouve que ces charges ont été dégressives. Et comme par hasard, la baisse du chômage en Italie a diminué d'intensité en fonction que les aides sont devenues moins importantes. Donc en fait, on est incapable de dire si c'est la conjoncture économique qui redresse un taux de chômage ou si c'est le code du travail. Donc on est vraiment sur un bouc émissaire. Et j'irai un peu plus loin, la voie que nous proposons avec Dominique Méda et Eric Ayer, c'est cette idée que il faut tout axer sur la qualité. C'est que si la France veut gagner des parts de marché, si la France veut, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais concurrencer des pays comme l'Inde, la Chine, c'est pas sur le coût du travail. C'est pas sur la compétitivité des coûts, c'est sur la compétitivité hors coût. Or, pour ça, il faut qu'on ait des...
Hors coût, cela veut dire avant tout la question de la qualité. Ouais, pas le fait de produire des produits moins chers, mais de meilleure qualité.
Exactement.
Pour être plus attractif.
Voilà, c'est d'aller sur l'innovation. Ça veut donc dire des produits innovants. Qu'est-ce que ça nécessite ? Ça nécessite des salariés qui sont productifs. Ça nécessite le bien-être des salariés. Et c'est pas par hasard si la France est très bien placée. Je crois qu'on est au quatrième rang au niveau de la productivité du travail dans le monde. C'est justement parce qu'on a des protections. Je ne dis pas que le code du travail est parfait, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas s'attaquer au code du travail pour répondre à la question du chômage. Au contraire, la protection des salariés est un gage d'efficacité si on veut aller sur la terre de la qualité.
Selon vous, Gilles Raveau, ce détricotage du code du travail n'aurait pas été mis en place pour des questions d'efficacité, mais plutôt pour des questions presque idéologiques.
C'est sûr que, autant c'est très difficile empiriquement de faire un lien entre des réformes législatives et l'évolution du taux de chômage, ne serait-ce que par le taux de chômage lui-même n'est pas le nombre d'emplois qui est créé. Un taux de chômage, il peut fluctuer parce que par la démographie, il peut fluctuer par la conjoncture, il peut fluctuer par les règles d'indemnisation chômage qui fait que vous êtes compté comme chômeur ou pas. Donc un taux de chômage, il n'y a rien de, excusez-moi ce terme sur France Culture, mais il n'y a rien de plus pourri comme statistique qu'un taux de chômage parce que c'est vraiment hyper compliqué à dépatouiller. Juste pour donner un exemple, par exemple, le taux de chômage est très faible en Allemagne aujourd'hui, tout simplement pour des raisons démographiques et pas pour des raisons strictement économiques. Donc, mais à l'inverse, il est extrêmement facile, je peux vous le faire en un quart d'heure, de démontrer au tableau noir que le code du travail est responsable du chômage en France. Ça, c'est effectivement, si j'ai le modèle néoclassique d'économie avec une courbe d'offre et une courbe de demande, je vous fais la représentation du marché du travail et je vous montre en 2 secondes que tout ce qui perturbe l'ajustement spontané et naturel sur le marché du travail, que ce soit le SMIC, que ce soit les allocations chômage, que ce soit le droit du travail, crée du chômage. Ça, il n'y a rien de plus facile à démontrer. Donc, c'est ce qui a été enseigné dans toutes les universités du monde, parce que derrière tout ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une uniformisation de la pensée économique au niveau mondial qui est sans précédent. J'ai envie de dire quasiment dans l'histoire de l'humanité, puisque à partir des années 80, vous avez des manuels économiques produits aux États-Unis qui sont traduits dans toutes les langues. Il y a une normalisation de l'enseignement partout dans toutes les universités, à Sciences Po, à l'ENA, etc. Et c'est toutes ces représentations extrêmement puissantes, extrêmement simples et extrêmement convaincantes, parce que dans l'ère du temps et ajustées, je dirais, aux a priori individualistes du néolibéralisme, qui sont dans toutes les têtes et qui sont malheureusement dans les têtes de nos dirigeants, qui sont convaincus que ce qu'ils font est juste scientifiquement, parce que ça a été validé par des grandes théories, par des prix Nobel, etc. Donc c'est quand même ça contre lequel il faut qu'on lutte aujourd'hui. Et ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est qu'il y a maintenant des dizaines ou si ce n'est des centaines de travaux empiriques qui montrent que ces modèles théoriques sont faux. Et donc dans mon livre, j'ai pas du tout fait un essai, j'ai fait tout l'inverse, c'est-à-dire que j'ai collecté des dizaines d'études dans tous les domaines. On apprend par exemple que Apple est très largement issu de la recherche publique. On apprend qu'il y a quasiment aucun pays dans le monde qui s'est développé grâce au libre-échange, mais quasiment tous grâce au protectionnisme. On apprend par exemple que le chômage en France, c'est un problème de partage du travail comme partout ailleurs, qu'on travaille autant en France qu'ailleurs malgré les 35 heures, etc. Donc il faut aujourd'hui rentrer dans l'empirie et j'espère qu'on soit au début de la fin de la domination de ces modèles théoriques parce qu'ils sont vraiment empiriquement faux.
D'autant que ces réformes du marché du travail vont quasiment toujours de pair avec des réformes qui se fondent sur le fait de relancer l'offre. On a eu en France cet exemple du fameux pacte de compétitivité porté par Louis Gallois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu sur quelle prémisse cela repose et quel a été l'impact réel sur l'économie française?
Alors, il y a une idée, pour le coup, là, j'avoue, j'arrive pas à savoir ce qu'il faut en penser exactement, mais il y a une idée qui s'est instaurée dans les esprits de nombreux économistes, qui est de dire qu'on serait coincé. C'est la question de compétitivité dont on parlait juste avant. L'idée, c'est que l'économie française serait trop chère et de pas assez bonne qualité. Donc sur les marchés mondiaux, on n'y arriverait pas parce qu'on serait plus cher pour s'en tenir à l'Europe que les Espagnols et les Italiens, parce que les salaires sont plus élevés en France, mais on ferait des produits de moins bonne qualité que les Allemands. Donc on aurait une mauvaise combinaison, on serait trop cher pour ce qu'on essaye de vendre, et on ne serait pas assez fort en qualité. Donc à partir de là, il y a deux voies, et effectivement la bonne voie qui est connue depuis des décennies, c'est d'aller vers la qualité, ça fait aucun espèce de doute. Et malheureusement, comme souvent, on a choisi la mauvaise voie, qui est de dire on va essayer de concurrencer par les prix, en baissant le coût du travail. Et donc là, Louis Gallois a fait cette proposition ahurissante de diminuer très fortement les cotisations sociales jusqu'à 3,5 fois le SMIC, ce qui a été critiqué même par des économistes libéraux, parce qu'on sait que quand on diminue les charges, hein, comme disent les patrons, ou les cotisations sociales sur des salaires aussi élevés, en fait, on touche des salariés qui sont évidemment qualifiés. Et donc, lorsqu'on diminue les cotisations, eh bien, en fait, ces salariés augmentent leur salaire parce qu'ils ont un pouvoir de négociation. Et donc, ça ne baisse pas le coût du travail. Bref, résultat, fin de l'histoire, on a mis en place le CICE, le Crédit d'impôt compétitivité emploi, qui a coûté jusqu'à présent plus de 100 milliards d'euros. Et avec ces 100 milliards d'euros, on pouvait enclencher très sérieusement la transition écologique dans notre pays. Et donc là, c'est le drame, mais c'est le drame absolu de ces dernières années, c'est qu'avec cette somme-là, on pouvait s'attaquer à la rénovation des bâtiments, au transport en commun, à l'agriculture écologique, etc. Au lieu de ça, on a déversé cette somme d'argent complètement phénoménale sur les entreprises, et France Stratégie, dans ses évaluations, montre que ça ne crée que très peu d'emplois. Donc c'est la pire politique de l'emploi qui a été mise sur pied depuis 1945 ou depuis je sais pas quand.
France Stratégie, qui est un organisme placé dans les services du Premier ministre, et qui avait justement dit il y a quelques années que ce fameux pacte de compétitivité avait eu un impact neutre, voire pas d'impact du tout, et d'autant qu'il n'y a eu aucune contrepartie demandée aux entreprises, Pascal Lokiek, en échange de cet abaissement des charges.
Non, absolument, c'est l'une des difficultés. On aide les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, sans exiger d'elles de contrepartie. Et effectivement, l'une des propositions qu'on fait dans notre livre, c'est de subordonner les aides à une certaine politique des entreprises. Et je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, une entreprise ne devrait bénéficier d'aides publiques que si elle a une politique vertueuse. Une politique vertueuse, c'est notamment une politique tournée vers l'écologie. parmi les propositions qui circulent, il y a justement l'idée de tout simplement de stopper les aides pour les grandes entreprises qui ont des aides et qui ne l'utilisent pas de manière vertueuse. Alors, d'ailleurs, je parle souvent de grandes entreprises, et c'est un point qui me semble très important, par opposition aux petites entreprises. Dans les revendications des Gilets jaunes, j'ai vu, et c'est quelque chose que je partage tout à fait, cette attention portée aux petites entreprises. On a tendance, en France, et je pense que c'est l'un des terrains sur lesquels il faut travailler, à mettre toutes les entreprises dans le même pot. Et il est absolument essentiel de ne pas traiter de la même façon la petite entreprise qui a 5 salariés, qui a 4 salariés, et la grande entreprise. Et ça, le droit, il a un peu de mal à le faire. Les États-Unis, et c'est, je répète, c'est l'une de nos propositions, ils ont ce qu'on appelle un Small Business Act. Ils ont toute une administration et tout un dispositif juridique très puissant d'aide pour les petites entreprises. Aide à l'accès aux prêts, aide à l'accès aux droits. Parce que les grandes entreprises, elles ont leur service juridique quand on parle du code du travail qui est trop compliqué. C'est pas un problème pour la grande entreprise qui a son service juridique d'avoir un code du travail très compliqué. Mais pour la petite boîte, elle a pas de juriste. Voilà, son expert comptable. Je pense que c'est un point très important. C'est de faire peser les charges avant tout sur les personnes qui sont responsables, notamment de la pollution. Et on sait que les entreprises qui sont les plus polluantes, ce sont les grandes entreprises, en tout cas certaines d'entre elles. Voilà, donc je voulais juste insister sur ce point qui n'est pas toujours dans le débat. Il n'y a pas que la protection des salariés, il y a aussi la protection des petits patrons. On ne le dit pas assez souvent, vous savez peut-être que tous les deux jours, il y a un patron de petite entreprise ou un artisan qui se suicide. Ah, donc ça va être, à mon avis, une préoccupation majeure de nos gouvernements que de s'attacher à la protection des petits patrons.
Marie Toussaint, une idée pourrait donc être celle de faire passer cette fiscalité du travail vers l'écologie. Ça a été porté par plusieurs penseurs d'écologie, le fait de taxer plus fortement les entreprises qui ne respecteraient pas des engagements en matière de transition écologique.
C'est l'inverse qu'on voit aujourd'hui, en réalité. Donc je rejoins complètement les propos de mon collègue. En réalité, aujourd'hui, on voit des firmes multinationales qui font des énergies fossiles, ces fameuses 100 firmes, en fait c'est 25 firmes et leurs filiales, qui ont pollué, qui ont émis 70% des émissions depuis 1988, donc depuis qu'on sait les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Eh bien, ces grandes firmes-là sont d'abord les plus puissantes parmi les plus puissantes des firmes multinationales. Donc, quand on regarde qui, parmi les multinationales, amasse la richesse, ce sont aussi ces firmes-là. Donc, c'est là où il y a tout l'argent et à la fois toute la pollution qui est concentrée au même endroit. Et ces firmes continuent à recevoir à la fois des investissements de la part des banques dont nous sommes, enfin auxquelles nous souscrivons, mais aussi des États français, des États de l'Union européenne, des États américains. Et donc on a des firmes comme Total ou comme Shell, qui sont les deux plus grandes firmes pollueuses européennes, Total étant la 19e, qui reçoivent des subventions, notamment le CICE, qui ne payent régulièrement pas d'impôts par des jeux dans les paradis fiscaux, dont on sait d'ailleurs la provenance. Hein, Total a été à la fois dans les Paradise Papers et les Panama Papers, et aucune législation. Alors même que, en 1982, l'OCDE, qui n'est pas le plus gauchiste des plus gauchistes des institutions internationales, a dit mais il faut mettre en place le principe pollueur-payeur. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de principe pollueur-payeur, ce qui explique d'ailleurs que dans la vague pour la justice climatique, on a donc à peu près 1000 actions en justice climatique depuis 10 ans, 1248 pour être exact, avec beaucoup portées par des entreprises contre des législations climatiques, mais aussi un nombre croissant d'actions portées soit par des individus, soit plutôt par des villes, aux États-Unis notamment, contre les grands pollueurs pour qu'ils réparent les dommages causés par le réchauffement climatique. En 2017, on estime à 330 milliards de dollars les dommages causés par les catastrophes naturelles, donc sans parler de la lente montée des eaux, de la lente fonte des glaciers, etc., dont on n'a pas encore estimé le coût. Et avec notre affaire à tous, nous avons aussi lancé le 22 octobre dernier, avec trois autres associations et une quinzaine de collectivités françaises, une action face à Total, non pas pour lui demander de réparer les dommages causés, mais pour lui demander de s'inscrire dans la trajectoire de l'accord de Paris, grâce à la loi devoir de vigilance, qui est quelque part une RSE, mais dont on espère que cette responsabilité plutôt de type droit mou devienne du droit dur, parce qu'on a besoin à la fois de contraintes pour ces grandes entreprises pollueuses et qui amassent toute la richesse, et de les faire contribuer à payer les coûts En plus, comme les assureurs nous disent aujourd'hui, notamment Henri de Castries, le PDG d'AXA, nous ne pourrons pas assurer un monde à 4 degrés Celsius, et bien tout repose aujourd'hui sur les citoyens. Et donc on a effectivement besoin de mettre les multinationales à contribution.
Gilles Raveau, vous, sur cette idée d'une responsabilité commune pour recréer une société peut-être plus harmonieuse, il y a cette idée qu'il faut réduire drastiquement le chômage. Vous nous dites qu'il n'y a pas de fatalité à ce chômage et vous remobilisez cette idée du partage du temps de travail. Vous nous dites que cette idée est plus d'actualité que jamais aujourd'hui.
Ben en fait, ce qui m'a sidéré quand j'ai écrit ce livre, qui est une synthèse de beaucoup de domaines, c'est l'étendue de mon ignorance. Je pensais vraiment savoir plus de choses que ça, et en fait non. Et notamment, j'étais censé être un spécialiste de la question du chômage. Et en fait, je suis tombé sur un article de Michel Husson qui s'appelle « Et si la croissance ne créait pas d'emplois ?» Et il fait une chose très simple, qui devrait être enseignée partout, mais qui n'est connue, je pense, d'à peu près personne, malheureusement. Il regarde l'évolution du PIB en France. Alors, nous sommes bien placés ici pour savoir que le PIB a de nombreuses limites et que c'est loin d'être un indicateur parfait. Mais là, vu que c'est une comparaison dans le temps, c'est beaucoup moins gênant. Il fait une évolution du PIB donc depuis 60 ans et on constate que le PIB en France a été multiplié par 4,5. Et puis, il compte les heures qui sont travaillées chaque année en France depuis 60 ans. Donc là aussi, c'est une statistique pas parfaite, mais qui est quand même relativement robuste. Et il constate qu'on travaille aujourd'hui en France, alors que la population a évidemment beaucoup augmenté, que la population active a beaucoup augmenté, on travaille moins d'heures aujourd'hui en France qu'il y a 60 ans. C'est pas moins d'heures par personne, c'est moins d'heures en tout.
C'est cette fameuse productivité dont parlait Pascal Lefièvre.
C'est cette fameuse productivité dont on parle jamais là non plus dans le débat public, mais qui est là, qui est à l'œuvre dans nos sociétés. Alors cette fameuse productivité, c'est elle qui explique l'extraordinaire hausse de notre niveau de vie. Si on est incroyablement tous plus riches que nos grands-parents, c'est la productivité qui l'a permis. Ça, c'est clair. Qui a aussi permis l'incroyable destruction du monde à laquelle nous participons tous joyeusement chaque jour. Mais c'est la productivité qui fait qu'on vit mieux. Hein, qu'on a des voitures, qu'on a des téléphones, qu'on a des ordinateurs, qu'on a des vacances, etc. C'est la productivité, ça c'est clair. Mais le constat, il est là. C'est-à-dire que la seule solution, c'est le partage du travail. Et quand on regarde les autres pays, on voit que tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire que dans les autres pays qui ont apparemment un chômage plus faible que le nôtre, c'est simplement parce qu'il y a des millions et des millions de petits boulots. Vous avez des gens qui travaillent 5 heures par semaine, 10 heures par semaine, qui sont donc dans la misère, mais qui sortent des statistiques du chômage. Effectivement, ils sont plus chômeurs. Donc le partage du travail est à l'œuvre partout. Et donc, comme l'explique Dominique, une certaine Dominique Méda depuis un certain temps déjà, il n'y a que deux choix. Il y a soit le bon partage du travail et le mauvais partage du travail. Le bon partage du travail, si on travaille tous un peu moins, mais on est plus nombreux à travailler, donc c'est la semaine de 4 jours, c'est les congés sabbatiques, là, il faudrait être imaginatif, flexible, etc. Et puis, il y a le mauvais partage du travail, qui est malheureusement, là aussi, comme on peut faire le parallèle avec la fiscalité écologique, le mauvais partage du travail est de plus en plus à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on a des gens favorisés qui travaillent beaucoup dans la société, et puis des gens beaucoup moins favorisés, qui sont très majoritairement des femmes, qui empilent les tout petits boulots de serveuses, de vendeuses, de femmes de ménage, de soins à domicile, et qui travaillent pour des salaires très faibles dans de très mauvaises conditions de travail.
I share with you my story. Would you share your dollar with me? Bad times are coming and I reap what I done sowed. Hey, hey. Well, let me tell you something. All that glitters ain't gold. Hey, hey. It's been a long old trouble, long old troublesome road. And I'm looking for somebody. Come and help me carry this load. I need a dollar, dollar. Man, let me go.
Il est 14h30 sur France Culture. Nous parlons de l'éventualité d'une autre voix en compagnie de Gilles Raveau, Pascal Lokiek et Marie Toussaint. Pascal Lokiek, nous parlions à l'instant de la question du partage du temps de travail. Vous nous dites qu'il faut aussi penser à la question du partage du pouvoir au sein de l'entreprise.
Absolument. La tendance très prononcée dans les ordonnances Macron, c'est de dire que les règles doivent être fixées au niveau de l'entreprise, par accord d'entreprise. Ça n'est possible, à notre avis, que si on revoit la question du pouvoir dans l'entreprise. Il faut davantage partager le pouvoir dans l'entreprise. Ce qu'on voit dans toutes les revendications, notamment des Gilets jaunes, c'est qu'ils ont envie d'avoir le droit à la parole. Eh bien, les salariés dans l'entreprise, lorsqu'on voit les études, ils ont envie d'avoir le droit à la parole. Ils ont envie d'être davantage autonomes. C'est pour ça qu'on propose dans notre livre notamment la création de groupes de discussion entre salariés. Et on propose surtout, dans les entreprises d'au moins 500 salariés, parce que là encore, ça ne touche pas les petites entreprises, on propose une représentation des salariés dans les conseils d'administration à 50%. Or, il y a en ce moment un projet de loi, le projet de loi Pacte, qui va dans cette direction de manière totalement, on va dire, anecdotique. Hein, on est très, très, très loin d'un partage du pouvoir. Donc c'est partage du temps de travail et aussi partage du pouvoir dans l'entreprise.
Et concrètement, cela veut dire mettre plus de salariés dans les instances de gouvernance d'une entreprise ?
Voilà. Aujourd'hui, vous avez quelques dispositifs qui prévoient qu'il y aura un ou deux représentants des salariés dans les conseils d'administration. Mais lorsque vous avez 12 membres d'un conseil d'administration, vous avez deux ou trois représentants des salariés, ça ne donne pas de poids, pas de pouvoir de décision. Donc l'idée, c'est de faire comme en Allemagne, hein, comme en Allemagne, c'est de donner davantage de place aux représentants des salariés, ce qui permettra d'avoir des décisions qui prennent non seulement en considération l'intérêt des actionnaires, puisque la plupart des dirigeants, des membres des conseils d'administration sont des représentants des actionnaires, mais aussi d'avoir des décisions qui prennent en compte l'intérêt social au sens de l'intérêt des salariés.
En matière écologique aussi, cette mobilisation des citoyens est essentielle. Je vous propose d'écouter une vidéo qui a été rendue publique par Notre Affaire à tous et dans laquelle justement ils évoquent ce pouvoir des citoyens.
Bonsoir. On a beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice.
Pour inaction face au dérèglement climatique.
On est maintenant des millions à voir que le climat se réchauffe, se dérègle.
À voir les sécheresses, les incendies, les tempêtes.
Les forêts, les animaux disparaître, que tout peut s'effondrer.
On est des millions à entendre tous les jours aux infos.
Les experts du climat tentent d'alerter le monde.
On parle de la sixième extinction, donc on parle de la fin du monde quelque part.
On connaît depuis les années 1960 les causes du dérèglement climatique.
On sait que si on ne fait rien, la température de la Terre pourrait augmenter de 5 degrés d'ici la fin du siècle.
5 degrés, c'est 50% de rendement agricole en moins. Des étés à 50 degrés, même en France. Plus assez d'eau, des centaines de millions de gens qui devront migrer.
Car pour l'instant, nos présidents, ils parlent beaucoup.
Notre maison brûle.
Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat.
Le réchauffement annonce des conflits.
Make our planet great again.
Nos présidents parlent beaucoup. On entendait un extrait de la vidéo que vous avez publiée, Marie Toussaint, pour accompagner cette initiative, l'affaire du siècle, qui fait grand bruit en ce moment, ainsi qu'une pétition citoyenne qui a récolté aujourd'hui près de 2 millions de signatures. Vous faites donc le constat de l'impuissance, ou plutôt du manque de volonté du politique face à l'urgence climatique, et vous avez décidé de porter plainte contre l'État français pour inaction face au changement climatique. C'est donc le juge, selon vous, qui est le mieux à même de défendre l'intérêt des citoyens ?
Alors, d'abord, cette action est portée par Notre Affaire à tous que nous avons cofondée avec Valérie Cabanès, mais aussi avec d'autres associations, Greenpeace, Oxfam et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et je remercie aussi au passage les collectifs de youtubeurs On est prêt et Il est encore temps qui ont permis de réaliser cette vidéo. Et effectivement, ce que nous soulignons, c'est une absence d'action des États pendant plusieurs décennies. Donc c'est des politiques actuelles, mais aussi des précédents. C'est pour ça qu'on a entendu plusieurs présidents de suite et leurs grands discours. Et en fait, on s'inscrit dans un mouvement mondial de gens qui disent, notamment des jeunes et notamment des jeunes femmes, qui disent la fin des grands discours creux est advenue, est arrivée, elle arrive en tout cas, et on va se saisir de nouveaux outils qui vont avoir une force de contrainte, qui vont permettre de vous faire changer, puisque vous ne le souhaitez pas, puisque la volonté est absente. Nous allons effectivement nous appuyer sur le droit qui a cette capacité de changement complet dans les actions qui devient un vrai levier qui peut sortir justement de ces grands discours ou des petites négociations sur des mesurettes pour passer dans un changement vraiment radical, un changement complet.
L'objectif en réalité c'est simplement d'obliger l'État à respecter ses propres engagements. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un juge est saisi pour obliger l'État à respecter ses engagements en matière climatique. Peut-être pourriez-vous nous parler par exemple du cas néerlandais qui s'est passé en 2015.
Effectivement, on a eu 3 cas qui ont déjà gagné aujourd'hui à travers le monde. Aux Pays-Bas, d'abord en mai 2015, ça a été confirmé en octobre 2018, avec une condamnation des Pays-Bas à rehausser leurs objectifs de lutte contre les changements climatiques. Au Pakistan, en septembre 2015, et puis en Colombie, en avril 2018, avec 25 jeunes qui ont là aussi gagné face à leurs États et qui, en plus, ont réussi à faire octroyer à la forêt amazonienne un statut de personnalité juridique. Donc on a donné des droits à la forêt amazonienne grâce à cette action. C'est ce qui est vraiment intéressant, c'est cette réappropriation qui est incarné sur l'affaire du siècle.net avec cette pétition, cette réappropriation par les citoyens de l'action climatique en disant bon bah puisque vous les États quand vous négociez ensemble tout en haut vous n'arrivez pas à changer les choses véritablement, eh bien nous par le bas on va faire émerger une jurisprudence internationale, une jurisprudence planétaire qui va pouvoir rendre contraignant cette protection du climat en établissant partout des obligations de protéger au maximum de nos capacités.
L'un des enjeux de cette action est aussi d'exiger l'indemnisation pour l'ensemble des préjudices liés au changement climatique et ainsi de renchérir le coût d'une certaine manière de l'inaction de l'État. On peut dire qu'on est sur une conception très anglo-saxonne du droit où l'on considère que tout doit être mesuré économiquement. Marie Toussaint.
On est sur une conception anglo-saxonne aussi dans ce devoir de protéger qui est le duty of care, qui marche beaucoup mieux dans les pays de droit anglo-saxon que dans les pays de droit écrit. Et effectivement, ce qu'on demande aux juges, c'est d'abord de reconnaître une faute de l'État, d'établir une faute de l'État. Ensuite, la demande forte, c'est aussi une mesure d'injonction, de prendre toutes les actions nécessaires, possibles et le plus rapidement possible pour lutter contre le réchauffement climatique. Et enfin, effectivement, une indemnisation des préjudices, dont le préjudice écologique, qui est extrêmement difficile à calculé en matière de climat. Je vous disais tout à l'heure 330 milliards d'euros pour les catastrophes naturelles. C'est sans compter la dégradation lente de notre environnement, mais progressive, la fonte des glaciers, la montée des eaux, l'appauvrissement des nappes phréatiques, et j'en passe, non plus que le coût pour les sociétés. Par exemple, en France, on sait que c'est à peu près 16 milliards d'euros par an que ça coûte à la sécurité sociale, les pollutions, à la fois au diesel, aux particules fines, mais aussi liées au changement climatique. Donc il faut qu'on analyse tout ça et effectivement qu'on ouvre cette nouvelle page de l'histoire du droit en France.
Vous parliez de cette idée du duty of care, on pense aussi à cette idée du devoir de vigilance. On a l'impression qu'on veut faire passer cette idée du devoir de vigilance, qui concerne avant tout les entreprises, à l'État, car vous voulez démontrer la carence fautive de l'État. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ? Ça n'est plus simplement montrer ce qui a été fait, mais ce qui n'a pas été fait pour empêcher qu'un malheur advienne, si je puis dire.
La carence fautive a été utilisée dans plusieurs autres affaires, notamment des questions de santé environnementale et d'environnement, dans les pollution des sols, de l'air, des eaux, mais aussi sur des sujets comme le sang contaminé ou l'amiante. Donc ce qu'on souligne, c'est qu'en ne respectant pas ses propres lois, puisque la France ne respecte quasiment aucune des lois liées à la politique climatique qu'elle a elle-même adoptée, en ne respectant pas ses propres lois, l'État a mis en danger ses populations. Et donc effectivement, on a un besoin de protéger, un besoin de vigilance, un besoin de prudence, un besoin de loyauté par rapport à ses citoyennes et ses citoyens. Il y a un devoir de l'État de tout faire pour nous protéger et on entre avec ces actions en justice climatique dans ce qu'on peut appeler la troisième génération de droits, après les droits civils, après les droits sociaux, et bien les droits de l'environnement.
D'autant que vous vous fondez pour porter plainte, non seulement sur l'idée qu'il faut être au niveau des engagements pris dans le cadre de la COP21 de l'accord de Paris, mais aussi des éléments beaucoup plus ancrés dans le droit français, si je puis dire. C'est des obligations constitutionnelles en fait de la France que de protéger les citoyens en matière écologique et environnementale.
En matière d'écologie, oui. Et d'ailleurs, on s'appuie sur un très grand nombre de traités internationaux signés depuis la conférence de Stockholm en 1972, qui établissait déjà des grands principes, et puis sur les droits humains, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Tout ceci étant repris normalement dans notre Constitution, à travers soit la Charte de l'environnement, soit le préambule de 48. Mais pour l'instant, ce qu'on observe, c'est une véritable carence du droit, un peu partout autour de la planète, à tenir compte de la dégradation des communs naturels, parce que le droit n'est pas du tout adapté. En fait, on a vraiment construit notre contrat social. Le droit, c'est notre contrat social, notre pacte social, sur une domination de la nature, en faisant comme si elle pouvait vraiment nous obéir, alors qu'en fait, elle nous dépasse et qu'elle est en capacité de nous détruire. Et donc, il faut à travers le changement du droit, soit par les textes, soit par la jurisprudence, rentrer dans cette ère qui serait le contrat naturel de Michel Serres et rentrer dans une ère qui tienne compte de notre appartenance à un vivant qui est plus grand que nous, qui nous dépasse.
Gilles Raveau, vous êtes un spécialiste de Keynes. Une autre idée s'est développée ces derniers temps pour encourager les entreprises à développer leurs activités en matière écologique et plus globalement à développer une société plus écologique. C'est l'idée de développer au niveau européen ce qu'on appelle un New Deal vert. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient l'idée et quelle serait son application aujourd'hui?
L'idée, c'est de faire un parallèle avec les années 30, puisqu'on sait que malheureusement, très malheureusement, notre époque ressemble de plus en plus aux années 30, mais je n'ai pas le temps de développer d'après ce que j'ai compris. Et donc, c'est de faire un énorme plan de relance de l'activité économique, comme ça a été fait avec le New Deal dans les années 30, mais qui soit axé sur la question écologique avec, par exemple, un énorme chantier autour des énergies renouvelables pour passer à un mix énergétique avec 100% ou le plus proche possible de 100% d'énergie d'origine renouvelable. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'on a une difficulté à gauche qu'on a bien identifiée et qu'il va falloir arriver à résoudre maintenant très rapidement. C'est qu'on a une partie de la gauche politique, de la gauche syndicale qui est attachée à l'idée de croissance, qui est associée à une idée de mieux-être. Et moi, j'étais ça quand j'étais plus jeune, j'étais keynésien. Donc je comprends très bien cette idée, je la connais par cœur. Mais maintenant, il faut y renoncer très très vite, il faut réduire. Parce que comme l'a dit Marie Toussaint, nous sommes pris d'un vivant qui est plus grand que nous et qui, de toute façon, va s'imposer à nous, qui s'impose déjà très largement à nous, et ça va de plus en plus être le cas. Nous devons réduire la dimension matérielle de notre économie. Donc tous les discours sur la croissance verte, par exemple, sont complètement creux et dangereux. Il faut accepter l'idée de réduire. Vous avez commencé l'émission en parlant de l'idée de limite. La gauche a beaucoup été bâtie sur le refus des limites. Hein, sur les droits, de conquérir des droits sociaux, des droits politiques contre des limites arbitraires qui nous étaient imposées. Là, on a une limite d'une toute autre nature qui nous est imposée par la nature. Et cette limite-là, il faut l'accepter.
Il faut rappeler que l'économie est une réalité prise dans la nature et dans l'environnement et pas l'inverse. Marie Toussaint, Gilles Raveau, Pascal Lokiek, merci encore d'avoir été parmi nous. Je rappelle les noms de vos ouvrages respectifs. Gilles Raveau, vous avez publié cette année Économie, on n'a pas tout essayé au seuil. Pascal Lokiek, vous êtes l'auteur avec Dominique Méda et Eric Heyer de l'ouvrage Une autre voie est possible, publié chez Flammarion. Marie Toussaint, je rappelle que vous êtes présidente de Notre Affaire à tous, l'une des quatre organisations qui a porté plainte contre l'État dans le cadre de l'initiative L'Affaire du siècle.
Entendez-vous l'écho ? Une émission présentée par Arjuna Andrade.
Il est 14h42 sur France Culture et tout de suite vous retrouvez la bibliothèque idéale de l'écho. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'économie des communs et aux théories d'Elinor Ostrom. L'économiste américaine s'est intéressée à l'élaboration de méthodes pour gérer au mieux des ressources par nature rares et altérables. Ostrom s'attache donc à développer des modèles capables de préserver ces communs reçus en partage. Elle formule pour cela des théories pour le moins iconoclastes. Et si, au-delà des marchés, il existait d'autres espaces efficaces de coordination et de gestion? Et s'il existait, en deçà de l'État, une manière optimale de gérer les ressources naturelles? C'est à ces questions qu'a tenté de répondre la grande économiste Elinor Ostrom dans son ouvrage « Governing the Commons », publié en 1990, et qui lui valut, ainsi que l'ensemble de son œuvre, le prix de la Banque de Suède en économie. Avec nous pour tenter de démêler racines et destinées du commun, l'économiste Benjamin Coriat, professeur émérite de sciences économiques à l'université Paris 13, membre du collectif des économistes atterrés et auteur notamment de « Vers une république des biens communs » publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Benjamin Coriat.
Bonjour.
Vous pourriez peut-être commencer par nous présenter Elinor Ostrom, l'économiste récompensée donc par le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les communs.
Ben écoutez, Elinor Ostrom, elle a la particularité d'être autant politologue, d'une certaine manière, qu'économiste. Elle a commencé ses travaux sur des problèmes d'eau en Californie, en s'interrogeant sur la question de savoir comment éviter précisément des questions de dégradation ou d'épuisement trop rapides. Et elle est arrivée à la conclusion que une action collective menée par des groupes capables de gérer cette ressource était souvent la manière la plus optimale de faire. Et donc à partir de là, elle a poursuivi toute une réflexion. Un des grands intérêts d'Elinor Ostrom, on va en parler, c'est qu'elle fait sortir l'économie de son corner, si j'ose dire, hein, et qu'elle utilise de la philosophie politique, de la théorie de l'action collective, hein, ça, c'est une question qui va la travailler beaucoup, elle utilise de la sociologie, puisqu'elle est très proche de différents courants institutionnalistes, on va en parler tout à l'heure. Bon, voilà. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi pour ça que moi, je la trouve si intéressante, c'est qu'elle montre ce que l'économie est capable de faire quand elle sort de son terrier et qu'elle dialogue avec d'autres sciences sociales.
Elle essaie notamment de penser peut-être de manière un petit peu moins systématique ou alors de penser à côté. Vous mentionnez cette idée d'une action collective et d'une action en coordination. L'objectif de tout cela, c'est quand même de réussir à gérer ce qu'elle appelle les communs. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que sont ces communs, justement, selon Elinor Ostrom ?
Oui, bien sûr. Alors, au départ, les communs chez Elinor Ostrom, c'est une réflexion qu'elle est amenée à mener autour de ce que elle appelle et qu'on appelle les common pool resources, c'est-à-dire des choses qui existent en commun, en paquet, les poissons d'un lac, les animaux d'une forêt, etc. Et sur lesquelles ce qu'elle appelle l'excluabilité est difficile, c'est-à-dire on peut pas séparer une partie des poissons d'un lac. Bien. Et elle arrive à la conclusion assez rapide, mais en même temps très très élaborée, hein, basée sur de très nombreuses études de cas, que dans le cas de ces common pool resources, de la gestion collective, partagée de la ressource entre les différents usagers, résidents, ayants droit, etc., est sans doute la manière la plus appropriée de gérer le stock des ressources et de le gérer de manière soutenable. Donc en ça, si vous voulez, elle s'oppose, parce que c'est inséparable hein, ces travaux-là, elle s'oppose à l'idée de la tragédie des communs de Hardin. L'idée de la tragédie des communs, c'est que lorsque des biens sont en accès libre, on a tendance, les différents ayants droit, ont tendance à les surexploiter et donc on aboutirait à une tragédie des communs.
Mais la réponse de Hardin, justement, dans cet article sorti en 1968 qui s'intitule « La tragédie des communs », c'est que pour protéger ces ressources communes, il faudrait faire intervenir l'État ou privatiser ces communs. On est à ce moment-là en pleine guerre froide et ce serait pas une manière d'affirmer la supériorité du modèle libéral américain?
Tout à fait. Hardin est un personnage haut en couleur, très conservateur et très engagé. Hein. Dans les débats politiques, il s'est prononcé pour l'eugénisme. Bon, c'est pas quelqu'un qui est neutre. Hein. Alors donc, il utilise cette idée de la surexploitation des ressources ouvertes pour mettre en avant la nécessité d'une appropriation privée. Seule l'appropriation privée pouvant permettre la conservation et la bonne gestion des ressources. Alors, ce que Ostrom lui oppose, c'est que un commun, alors donc là on va arriver dans la définition, c'est que un commun n'est pas une ressource libre de droit. C'est pas une ressource en accès libre. Un commun, ce n'est pas de l'accès libre. Un commun, c'est de la propriété partagée. Elle a une expression très forte. Elle dit « commons is not no property hein ». Un commun n'est pas la négation de la propriété, c'est de la propriété partagée, et surtout un commun, c'est gouverné par les ayants droit, par les personnes qui participent à l'exploitation du commun. Et donc en ce sens, il n'y a pas de tragédie des communs. Il y a des tragédies de ressources ouvertes susceptibles d'appropriation privée, mais pas des communs.
Il y a une tragédie de la manière dont on utilise et dont on a accès à ces ressources. Et justement, ce qui est nouveau avec elle, c'est qu'elle dit pas besoin de se limiter à des logiques de marché ou à une forme de verticalité de la volonté de l'État. On peut tout à fait, au niveau local, avoir des acteurs qui vont savoir eux-mêmes comment utiliser au mieux les ressources dont ils ont besoin au quotidien.
Absolument, absolument. Ce qu'elle va montrer, c'est que il n'y a pas que la propriété privée exclusive ou la propriété d'État. Elle va faire une espèce de révolution hein, dans la théorie des droits de propriété, en s'appuyant d'ailleurs sur des écoles américaines antérieures, hein, ce qu'on appelle l'école du réalisme juridique. Alors, son idée, c'est que en fait, autour du droit de propriété, il y a ou à l'intérieur du droit de propriété, il y a une série de droits, hein, qui sont des droits de prélèvement, des droits d'utilisation, des droits de commercialisation, etc. Et que ces droits constituent ce qu'elle appelle un « bundle of rights », un faisceau de droits. Et que donc la propriété peut être séparée et allouée entre différents types d'usagers. Et de cette manière, on peut avoir une ressource qui est à la fois objet de propriété, mais de propriété partagée, distribuée. Les bénéficiaires assurant ensemble la gestion du bien.
Mais alors, ce sont des droits qui s'accompagnent aussi de règles,
d'obligations,
de devoirs, sans quoi cette gestion en commun ne peut pas fonctionner.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces différentes strates de règles qui accompagne ces droits et qui permettent d'encadrer sa gestion commune?
Alors, ça va de la soft law, c'est-à-dire de la coutume, et du fait que les différents ayants droit, par exemple d'une pêcherie, exercent les uns sur les autres un contrôle souple, hein, et vérifient que chacun respecte les règles d'usage qui ont été établies, bien, jusqu'à des formes qui peuvent être tout à fait de la police dure. Hein. Elle donne des exemples, où en Inde, par exemple, dans un pâturage qui est un commun et où différents types de bergers ont accès avec leurs troupeaux, eh bien, comme c'est éloigné des centres d'habitation, eh bien, les commoneurs, hein, les bénéficiaires du commun, on paye des gardes armés qui vérifient que les droits sont respectés. Donc, si vous voulez, ça va de vraiment la soft law, hein, du contrôle réciproque par les bénéficiaires, jusqu'à des corps spécialisés, le cas échéant. Voilà.
On va mettre en place une série de stratégies, donc du niveau ultra local, jusqu'à la possibilité de demander justement à l'État d'intervenir pour assurer une forme de certitude dans le fait d'avoir des informations qui sont échangées et le fait que tout le monde puisse avoir confiance dans ces informations. C'est très important pour les Neurostrom. C'est cette idée de la confiance et de l'information, d'un partage collectif de ces informations.
Absolument, mais surtout, dans un commun, il y a le fait que les règles sont émergentes, hein, et que les règles ont été fabriquées par les acteurs du commun. Par rapport à l'État, ce qu'elle dit, c'est seulement que il faut que les autorités supérieures, donc régionales, étatiques, etc., acceptent l'idée que des règles émergentes peuvent être pratiquées et qu'elles ne sont pas contradictoires avec les lois, avec la Constitution, etc. Mais si vous voulez, on ne confie pas à l'État, hein, la gestion du commun. Hein. C'est les commoners, hein, qui gèrent le commun, mais dans une symbiose, on va dire, avec des règles plus générales, hein, qui sont celles qui sont les règles de la loi publique. Hein, voilà.
On ne confie pas la gestion des communs à l'État, mais on peut lui demander d'être cette instance qui vient vérifier ou encadrer pour être certain qu'entre les acteurs, il y a bien une égalité, un level playing field, comme on dit. On a pu voir ça notamment en Afrique, dans les théories du développement, où on avait des problèmes, c'est qu'il y avait certaines personnes qui avaient plus de pouvoir et qui allaient avoir plus d'accès à certaines ressources, et à ce moment-là, ils ont décidé non seulement d'établir des normes, des règles auxquelles ils avaient participé intégralement, mais d'avoir cette instance de l'État pour les faire appliquer.
Oui, mais moi je persiste à dire que chez Ostrom, le fait que c'est le collectif d'abord, hein, qui assure la gestion et assure le respect des règles, est essentiel. Hein. Simplement, ce qu'elle dit sur ce point, c'est que pour qu'un commun fonctionne, il faut que les règles soient respectées, et donc dans ce qu'elle appelle les design principles, c'est-à-dire les principes qui assurent la durabilité du commun, Elle est très précise sur ce point. Elle dit il doit y avoir des règles de sanction qui soient faciles à appliquer et qui soient graduelles, de manière à ce que, si des gens s'écartent du respect des règles, il y ait des rappels à l'ordre initiaux et que ça aille à la fin jusqu'à l'exclusion éventuelle des membres. Mais la dimension d'autogouvernement est très importante, hein.
Cette notion d'autogouvernement doit permettre, selon les termes même d'Elinor Ostrom, de faire face à la complexité de gestion et d'usage de ces ressources communes. Une des clés, selon elle, pour faire face à cette complexité, serait la coopération et la participation des citoyens, comme vous le disiez. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de gestion démocratique, alors, des communs ?
Oui, sans aucun doute. Je pense que c'est un des points forts d'Ostrom, c'est d'avoir renouvelé les questions de démocratie en introduisant cette idée que une idée, on va dire, de démocratie participative. Elle insiste sur le fait que dans les structures de gestion du commun, les plus fragiles doivent être représentés pour que leurs intérêts soient respectés. Il y a donc, oui, absolument, un souci de renouveler la démocratie en l'asseyant sur des pratiques un peu différentes des pratiques délégatives, on va dire, traditionnelles.
Et alors, ce qui est intéressant, notamment dans l'usage qui a été fait de cette théorie des communs, c'est que les théoriciens et même Elinor Ostrom elle-même tiennent bien à ce qu'on parle de commun et non pas de bien commun. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ?
Oui, tout à fait. Parce que la différence est la suivante, c'est que les communs, c'est chez Ostrom ce qu'on pourrait appeler des community-based communs, c'est-à-dire c'est des communs qui sont basés sur des communautés qui en bénéficient, qui sont capables de le gérer, dans le respect de l'écologie, dans le respect des communautés environnantes, ces points sont essentiels. Alors que les biens communs font référence, je pense dans la pensée d'Ostrom et plus généralement, font référence à ce qu'on pourrait appeler des très grands communs, c'est-à-dire qui ont une dimension universelle, le climat, l'atmosphère, etc. Alors là, il y a une objectivité du caractère commun de ces biens, mais par rapport au commun community-based, basé sur des communautés, ils ne sont pas gérés ou très mal gérés.
C'est aussi l'idée selon laquelle le fait de parler de bien nous remettrait de fait dans une forme de logique libérale, d'échange, parce que les biens, on les met en marché, on les échange. Et justement, cette volonté de nier cette approche par les marchés, de parler de commun, comme une conceptualisation qui aurait une réalité pratique.
Oui, tout à fait. Si les biens sont gérés suivant des logiques de marché, ce ne sont pas des communs. Il y a plus nombre d'un doute là-dessus. Et les biens communs eux-mêmes, c'est très clair, ne peuvent pas être logés dans des strictes logiques de marché et nécessitent des formes de gouvernement qu'elle appelle multicentriques, où on associe différentes instances, communautés, niveaux, etc., pour arriver à gérer le bien commun. Le climat en est le meilleur exemple.
Pour conclure, Benjamin Coriat, peut-être pourriez-vous nous dire ce que la lecture d'Elinor Ostrom nous apporte aujourd'hui et pourquoi ça reste un classique que l'on devrait tous avoir sur nos tables de chevet.
Pour deux raisons qui sont très évidentes. La première, c'est que les travaux d'Ostrom sont au cœur de la question écologique. Les communs, c'est un moyen d'exploiter les ressources en les préservant à long terme. Sinon, un commun n'a pas de raison d'être. Donc, si vous voulez, être au cœur des questions d'écologie et jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est celle que vous évoquiez, qu'on a évoquée, cette espèce de renouvellement des formes de la démocratie. Donc quelque chose qui est à la fois au cœur de l'écologie et au cœur des interrogations et des réponses sur la démocratie est évidemment quelque chose de grande importance.
Merci Benjamin Coriat de nous avoir fait découvrir les travaux et les théories d'Elinor Ostrom. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Vers une république des biens communs » publié aux éditions Les Liens qui libèrent.
Merci à vous.
It's not that easy being green.
Ainsi s'achève cette semaine de Noël d'Entendez-vous l'écho. Vous retrouverez dès lundi Tiffaine de Rocchini aux commandes de l'émission pour une semaine consacrée aux grands penseurs de l'économie. En attendant, vous pouvez retrouver cette semaine sur l'héritage ainsi que toutes nos séries sur le site de France Culture et en podcast disponible à l'infini.